Vous voulez. Chacun son heure, on est cohérent quand même à 3 minutes près. Donc nous allons ouvrir la séance du conseil municipal, séance de rentrée. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances et que vous en avez profité pour à la fois vous reposer, vous retrouver en famille et retrouver une énergie importante. Nous allons donc ouvrir la séance et je vais commencer par procéder à l'appel nominal des conseillers. Abena Laurence. Présent. Enzi Jean. Absent. C'est lui qui t'a laissé un pouvoir ?
Oui.
Donc pouvoir à Evelyne Kerol. Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile.
Présente.
Barouin Dolores. Absente.
Pouvoir.
Pouvoir. À Monsieur Cournil. Biaise Michel.
Oui.
Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présente.
Kerol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présente.
Coulet Dominique.
Présente.
Cournil Jean-Jacques.
Présent.
Fagot Edwige.
Présent.
Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie.
Présent.
Gagzinski Nicolas.
Présent.
Grosbon Lisiane.
Présente.
Lamy Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude.
Présent.
Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe.
Absent et j'ai procuration.
D'accord.
Enfin, pouvoir, pardon.
Raguido Cécile.
Présente.
Raoui Ferrugia.
Présente.
Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick.
Présent.
Présent. Bon, le quorum est atteint puisqu'il y a 23 présents sur les 27. La séance sera donc valide. Qui se présente comme secrétaire de séance ?
Moi.
Evelyne Kerol, secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Evelyne Kerol, secrétaire de séance, à l'unanimité. Donc, les pouvoirs reçus. Jean Enzi à Evelyne Kerol. Dolores Barouin à M. Jean-Jacques Cournil. Et Philippe Rabé à Mme Lisiane Grosbon. C'est bon ? Ok, l'ordre du jour. Donc, après l'élection du secrétaire de séance auquel nous venons de procéder, il y aura l'approbation. Il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 12 juillet 2016, la lecture de la décision du maire numéro 6, la lecture des décisions de droit de préemption urbain. Nous traiterons ensuite d'un sujet qui concerne les travaux à l'église. Le sujet suivant concernera les tarifs de la restauration communale. Sujet suivant, convention ligne électrique de 225 kV, Moimont-Mauroux. Ensuite, la modification des statuts du SE60 et la dénomination d'une voie. Voilà, questions diverses. Il n'y a pas eu de questions diverses. J'ai reçu un mail d'Edwige, Edwige Fagot, j'ai reçu un mail, donc on en parlera un peu tout à l'heure. Et puis, il y aura d'autres sujets d'actualité à aborder. Voilà. Très bien. On va commencer. Donc, premier temps, procès verbal des délibérations du Conseil municipal du 12 juillet 2016. Y a-t-il des questions, des commentaires? Il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, le procès verbal des délibérations est approuvé à l'unanimité pour ce qui concerne le Conseil municipal du 12 juillet 2016. Décision du maire numéro 6. Alors, signé le 19 juillet 2016, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour les marchés relatifs aux travaux de voirie réseau divers, VRD, et d'assainissement eau pluviale pour la rue de la République avec l'entreprise Eurovia Picardie, agence de Compiègne, boulevard Henri Barbusse, Tourotte, pour les montants suivants. Donc voirie et réseau divers. 384 637,82 euros centimes hors taxes, soit 461 565,38 euros, toutes taxes comprises. Assainissement eau pluviale, 166 692,75 euros hors taxes et 200 031 euros et 30 centimes, toutes taxes comprises, marché passé selon la procédure adaptée. Voilà, ça a été signé le 19 juillet 2016, et comme vous avez pu le voir, les travaux n'ont pas tardé. Y a-t-il des questions sur cette décision? Bien, donc, puisqu'on en est là, juste quelques mots. Ça représente évidemment qu'une partie des travaux qui sont faits sur la voie de la République, puisque c'est pour lesquels la mairie est maître d'ouvrage. Donc ça comprend tout ce qui est voirie, trottoir, chaussée, et ça va commencer, ça n'a pas encore commencé dans les faits. Et la partie création du réseau pluvial, qui elle par contre est terminée aujourd'hui. Il reste quelques éléments qui seront cette semaine sur le branchement justement d'Avaloir sur le réseau pluvial. Donc voilà où on en est pour l'entreprise Eurovia et pour les travaux pour lesquels nous avons la maîtrise d'ouvrage. Évidemment, en plus, il y a des travaux pour lesquels le CIVOM est maître d'ouvrage. C'est tout ce qui concerne le réseau d'assainissement. Donc le réseau d'assainissement Barrican, qui était en charge de ces travaux, a terminé. Il lui restera probablement une intervention à faire face à la rue, à la place du marché. Mais sinon, tout le réseau est en place et tous les branchements ont été revus. Le réseau a été testé, il est étanche, donc ça nous donne droit aux subventions de l'agence de l'eau, notamment. Le pluvial s'est donc glissé à côté du réseau d'assainissement entre les branches, les branchements de part et d'autre du réseau d'assainissement chez les particuliers. Inutile de vous dire que ça a été une affaire complexe. Elle a été complexe dès le début, puisque ça a commencé rue Saint-Pierre, où il a fallu trouver effectivement le pluvial qui se trouvait au niveau du début du plateau surélevé à plus de 3,70 m de profondeur. Ensuite, il a fallu poursuivre vers la rue de la République. Bon, tout ce qui concerne la rue Saint-Pierre, comme tout le monde l'a remarqué, tout ça a été refait. Et puis ensuite, il a fallu le glisser, effectivement, comme je vous le disais, entre les branches du réseau d'assainissement. Donc ça, c'était une autre partie des travaux qui aujourd'hui est terminée à 99%. On va dire. Troisième partie, c'était la Lyonnaise qui était maîtrise d'ouvrage au titre du contrat d'affermage que nous avons avec elle. Et là, ils ont refait, eux, le réseau de distribution d'eau. Le réseau est complète, enfin, la canalisation centrale du réseau est complètement en place. Et là, en ce moment, ils avancent à grande vitesse sur tous les raccordements chez les particuliers. Globalement, par rapport au calendrier prévu, il n'y a pas de retard. Parce qu'en fait, les branchements, normalement, sur la canalisation d'eau potable, on devait les faire en même temps que la voirie. Là, après discussion, mais c'est normal, dans les chantiers, ils ont trouvé que le faire comme ça, ça permettait de laisser la circulation ouverte, et puis ça permettrait, au final, de gagner du temps sur la totalité du chantier. Donc, on est, en fait, plutôt en avance sur le calendrier qui était prévu. Et les impondérables, à l'exception des intempéries, on les rencontre plutôt au niveau des réseaux. Il y en a eu d'ailleurs, hein, puisque notamment à un moment donné, on a eu une fuite de gaz avec évacuation des personnes. Et il y a même eu une deuxième fois un tuyau de gaz qui a été percé. Enfin, ça, c'est la vie des chantiers. Et donc, tout ça, c'est bien terminé. Et bon, je pense que là, maintenant, les seuls, ce qui peut gêner le calendrier, ce serait évidemment la météo sur la partie VRD, donc trottoir et chaussée. Voilà, ce qu'il nous reste à faire comme travail au sein du, en particulier de la commission, voirie, c'est tout ce qui est mobilier urbain dans cette rue. Donc on va s'y atteler au mois de septembre. Voilà ce que je pouvais dire en commentaire sur ce chantier.
Commission le 15 septembre sur la voirie.
Alors effectivement, on a une première commission le 15 septembre sur les affaires de mobilier urbain. Sur ce dossier, d'autres questions, d'autres...
C'est vrai qu'ils incorporent les compteurs en haut sur les trottoirs. Parce que les compteurs en haut des particuliers, certains l'ont chez eux.
Oui.
J'ai entendu dire qu'ils allaient les mettre sur la route, les mettre à l'extérieur des propriétés. Moi, je veux savoir si c'était vrai ou
pas. Ça a été fait sur certains, mais à la demande des propriétaires. Maintenant, ils ne les remplacent pas automatiquement. C'est-à-dire qu'ils proposent aux gens, c'est quand même beaucoup plus simple de rendre compte. Il y a des gens qui l'ont demandé, donc ça a été fait.
Oui, ça a été fait.
C'est
pas généralisé, je suis d'accord.
Bon, vu l'ampleur du chantier, moi je trouve que ça, j'avais pas forcément une grande expérience là-dedans. Je trouve que ça se passe plutôt bien, que les riverains sont compréhensifs, que aussi les chefs de chantier font les efforts qu'il faut, et que globalement les gens sont souriants. Voilà. Décision, droit de préemption urbain, à partir de madame, du 31. Donc la commune n'a pas exercé son droit de préemption urbain. Par contre, j'ai signé un certain nombre de documents pour renoncer justement à ce droit. Donc monsieur Julien Mathieu, 9 rue Claude Carlier. Donc là c'est premier dossier. Ensuite, Madame Aublé et Monsieur Laure, 18 rue de Paris. Ce sont des appartements, hein, tout ça. Appartement SCI Fibat, 2 route de Compiègne. Mesdames Doutresoul et Tiboul, 16 avenue René Firmin. Monsieur Personne et Madame Le Sueur, 28 rue de Paris. La SCI Les Colombes, 28 rue de Paris. Monsieur et Madame Jacques Barouin, 136 rue de la Cendrière. Monsieur et Madame Sieslac Patrick, 2 rue des Marronniers. Et Monsieur Larvor et Madame Ferré, 3 rue Saint-Pierre. Voilà. Nous allons donc passer au premier dossier de ce conseil municipal qui concerne des travaux à l'église clocher et nef. Donc, comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons installé les systèmes de vidéoprotection. Ce système de vidéoprotection comporte des reports d'antenne au niveau du clocher de l'église. Et lorsque... Enfin, on y était déjà monté. Hein. Enfin, moi, j'y suis pas monté, d'ailleurs. Il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai délégué l'adjoint au bâtiment. Toujours est-il que, quand ils y sont allés, avec d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Pradoux, c'est vrai qu'ils ont constaté que tout ça était dans un état assez dramatique. Ça ne touche pas la structure du bâtiment, hein, mais un état assez... voilà, qui mettait en danger les personnes qui pouvaient monter là-haut. Donc, suite à ça, on en a discuté avec Monsieur Pradoux, qui nous a dit qu'il était nécessaire d'engager des travaux de restauration dans le clocher au niveau de la nef de l'église Saint-Pierre, classée monument historique, et qu'il nous appuierait pour ce qui est des demandes de subventions, notamment de subventions de la DRAC. Donc, ces travaux, on a demandé un devis à une entreprise qui est une entreprise qui est agréée par l'architecte des bâtiments de France, hein, puisqu'il s'agit d'un monument historique. Et il en ressort que les travaux sont estimés à 23 580 € et 34 centimes hors taxes et 28 296 € et 41 centimes toutes taxes comprises. Alors, pour ces travaux, pour un descriptif relativement sommaire et synthétique, je vais laisser la parole à l'adjoint aux travaux. Ce que je peux dire, c'est qu'aussi il y a des pigeons qui rentrent dans le clocher et que les opérations qui vont être conduites vont consister aussi à nettoyer et à remettre en place tout ce qui empêchera normalement un pigeon de rentrer dans le clocher d'église. Francis, je te laisse la parole pour un exposé très synthétique, hein, de cette affaire.
Donc, nous avons reçu le devis d'une entreprise de Lu, donc, qui doit nous nettoyer les fientes de pigeons, déjà, qui sont énormes au niveau de certaines nefs. Oui. Et donc, qui donne un poids sur les nefs. Donc, ils sont obligés de retirer. Parce qu'il y a une épaisseur assez conséquente dans la mesure où les pigeons rentrent par les abattis. Donc, cette entreprise va aussi sécuriser les abattis en mettant des grillages pour que les pigeons, une fois qu'ils auront terminé de nettoyer, ne puissent plus rentrer. Ensuite, l'entreprise va réaliser une échelle pour monter au clocher, pour avoir un accès aux cloches. Donc cette échelle est d'une échelle en bois qui date de très loin, oui. Et donc il va nous la remettre en état dans la mesure où il y a quand même pas mal de personnes qui doivent monter aux cloches. En plus, on a trouvé aussi que les planchers correspondants au premier étage et en haut des cloches étaient en mauvais état. Donc, l'entreprise allait nous refaire aussi les planchers. Donc, tous ces travaux, bon, j'en passe, un devis est ici. Pour tous ces travaux, il y en a pour 23 580 €34.
Bon, je pense que c'est un investissement, donc on aura un remboursement de la FCTVA, hein. Donc c'est surtout le prix hors taxe dont il faut tenir compte. Là.
Madame le collègue demande si on a plusieurs devis, donc j'ai la
carte. Ah, mais non, mais pour l'instant, on est dans la demande de subvention. Donc dans la demande de subvention, il faut qu'on ait un estimatif de prix. D'accord ? Ça ne veut pas dire que pour la réalisation des travaux, on ne demandera pas plusieurs devis. Alors néanmoins, dans ce cas-là, le nombre d'entreprises, à mon avis, accréditées, etc., risque d'être, dans la région, ça risque d'être extrêmement limité.
on a reconnaître le nom, il devait battre et battre.
Oui, mais bon.
D'accord.
Je pense qu'il y en a plus quand même.
Bon, ce sera aussi, alors plusieurs devis, oui, ce sera évidemment en fonction de, du nombre d'entreprises qui peuvent réaliser ces travaux dans la région.
Parce que j'ai l'impression que quand on va leur donner que des charges, il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui vont
répondre.
D'accord.
Pour l'instant, ils vont être habilités par...
Mais pour revenir sur ce que votre question, à chaque fois qu'on a fait des demandes de subvention, que ce soit celle-ci ou une autre, c'est, on a procédé de cette manière. C'est-à-dire qu'on fait un devis estimatif et ensuite on fait la demande de subvention. Quand la subvention nous dit qu'on a droit à la demande de subvention, à ce moment-là, on demande plusieurs devis.
C'est toujours 50% la banque.
C'est de cet ordre-là, oui. Et donc là, alors là, justement, bah, ça consiste à vous demander de... oui, là, on demande en fait de confier à l'entreprise Lelu les travaux. Bon, c'est un peu... Donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Mais là, on va faire de toute façon la demande de subvention via l'ORAC. Alors après, on est peut-être dans le cadre de l'architecte des bâtiments de France. De toute façon, on est peut-être obligé de demander d'avancer une entreprise. Je ne sais pas. Vous avez des éléments particuliers, Madame, Madame Jadlot, là-dessus ?
Non, on est obligé de demander parce qu'il y a eu l'affaire des 35 clochers.
Parce
qu'il faut que ça soit... Vous vous souvenez de l'affaire des 35 clochers ?
Bon, c'était d'autres
montants. Il y a eu quelques gardes à vue, hein. Donc, il faut être extrêmement prudent.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les 35 clochers ? On ne sait jamais, ça peut être intéressant.
Les 35 clochers, c'était l'affaire dramatique qui a concerné 41 maires de l'Oise, à qui auquel le conseil général de l'époque avait offert 70% de subventions pour la restauration des clochers. Donc, vraiment, c'était très, extrêmement avantageux parce que c'est beaucoup d'églises sont en besoin de travaux très importants. Le problème, c'est que la contrepartie, un peu, qui n'était pas dite, c'est qu'il y a recours à un maître
désigné.
Un maître, voilà, un autre maître d'œuvre qui convient bien et une entreprise qui convient bien. Et il se trouve que le maître d'œuvre et l'entreprise, c'était époux.
Ah oui.
Donc après, il y a eu aussi un tirage, ça s'est passé 300 000 en temps francs, à l'époque 300 000 francs, on faisait des tranches de 300 000 francs au lieu de faire un appel d'offres d'un million cinq.
D'accord.
Voilà, donc là...
C'est bien, chaque commune a pris le même...
Ils ont pris le même
maître
d'œuvre. C'est comme ça que nous, finalement, à Cambry, on y a échappé.
C'était du saucissonnage, pour parler clairement.
On n'avait pas recouru,
sinon... Non, oui, nous, on y a échappé parce qu'on était le 35e et le 36e clocher, et après les travaux, je les avais fait par une autre entreprise. Avec un véritable appel d'offres. Donc,
l'affaire
donc on n'a pas eu le droit.
Alors, il faut savoir que là, on est dans l'arrondissement de Saint-Louis, il y a eu 11 élus, pas les moindres, les années à Craye dans des conditions très difficiles. Et il y a eu des condamnations pénales pour l'architecte.
Alors qu'il était même pour le courant, c'est pour le maire.
Par contre, moi, les élus, ils ont aidé, ça n'y a rien.
Alors, dans le cas d'espèce ici, d'abord, il n'y a pas d'autres travaux dans les autres églises, du moins, on n'est pas associé dans un autre contrat. Donc, a priori, on n'est pas dans le cadre du saucissonnage. Ensuite, le montant sur ce devis est de toute façon inférieur à 25 000 euros, qui est le nouveau seuil, je vous rappelle, pour faire pour la procédure. Donc, on est en dessous du seuil. Donc voilà, ça se passe bien.
On ira voir. Je vais demander plusieurs devis parce que.
On va faire des appels d'offres.
C'est un sujet pointu avec la
marque. C'est 25 000 euros.
Si on est en dessous du seuil, on n'a pas besoin de faire 3 devis. 3 devis ou 4 ou 5 devis. Dès que tu dépasses, tu as des procédures.
Alors, sur ces affaires-là, donc, moi, ce que je vous demande, c'est d'approuver le projet de travaux tel que Francis l'a décrit, hein, qui, enfin, le devis en lui-même, il doit faire 4 pages parce qu'il est extrêmement détaillé.
J'ai schématisé un petit peu parce que celui qui veut voir le devis est là. Non, mais c'est pas
Alors attendez, je reviens, n'étant pas très, très au fait des pratiques avec, avec la DRAC. En fait, oui, le dossier a déjà été approuvé par l'architecte des bâtiments de France avec cette société. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, madame Poulet.
Il y a très peu de sociétés qui travaillent pour les monuments historiques.
Je sais, mais enfin, je sais aussi qu'il y en a plus qu'une, quoi.
Donc là, moi, je vous propose de partir avec cette société-là. Le prix ne nous a pas paru délirant vu la somme de travail à faire. On aura effectivement la subvention de la DRAC, donc qui sera de 50%. On peut peut-être d'ailleurs demander une subvention complémentaire au conseil départemental.
Hein?
On peut cumuler normalement. On peut demander. Donc voilà. Donc ce que je vous propose en plus, hein, c'est non seulement de solliciter la DRAC pour une subvention de la DRAC pour la réalisation des dits travaux, mais c'est aussi de solliciter le conseil départemental pour une subvention supplémentaire.
Voir le conseil parlementaire, parce que c'est le moment d'en profiter.
Alors, la réserve parlementaire, on en a eu pour les bancs de l'église, donc voilà. Ensuite, de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au budget d'exercice 2017 et de s'engager à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l'entretien de cet investissement afin d'en assurer la pérennité. Voilà. Bon, après cette discussion et puis le flou de ma réponse. Donc, mais bon, on est là aussi pour discuter. Hein. Donc, je vous propose effectivement de, voilà, conformément à ce qui vous a été proposé, en ajoutant de solliciter une subvention du conseil départemental. Et je ne devrais pas me retrouver en garde à vue, puisque nous sommes en dessous des seuils donnés. Et que l'architecte des bâtiments de France, en plus, a été consulté et associé évidemment à cette affaire.
Ce qui m'embête quand même, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, on va dire, par rapport à. C'est pas ça, c'est parce que, en supposant qu'il y ait une société qui existe et qui dit vous avez pris telle société, vous, on n'a pas été mis au courant.
Là, on est en dessous du seuil.
Mais oui, mais même que tu sois en dessous du seuil.
Non, c'est pas tenu à une publicité. Maintenant, c'est pas ce qu'on pratique, hein. Moi je ne cache pas les choses. Hein. Mais juridiquement, nous ne sommes pas tenus à faire de la publicité sur cette affaire-là.
Mais comme là, c'est des travaux spécifiques, c'est vrai que
c'est la procédure de la DRAC. C'est sa procédure. Et surtout, c'est l'architecte des bâtiments de France qui est intervenu.
De toute façon, il faut qu'elle soit agréée. Hein,
En plus, on a le soutien de l'architecte des bâtiments de France. C'est précieux. C'est tellement difficile de travailler avec ces gens-là que quand on arrive à travailler avec eux, il ne faut surtout pas rater la marche.
Bon, moi, ce que je note quand même là-dedans, c'est que de notre côté, on a travaillé avec l'ABF, ça se passe, on travaille intelligemment avec lui, et que pour ce dossier-là, il nous appuie, et donc on est quasiment sûr d'avoir la subvention. Donc c'est bien pour nous, 50%, il nous restera 12 000 euros à sortir, hein, si on n'a pas une subvention supplémentaire du conseil départemental.
Merci.
Michel.
Ah, lui, il voudra la copie.
Ah, une copie. Une copie. Oui, s'il vous plaît.
Comment ?
Non,
non, mais il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, bon, approuvé à l'unanimité. Donc nous allons avoir un clocher rénové, du moins à l'intérieur. Ça rassurera surtout ceux qui montent dedans. Oui, alors en complément, on profite pour faire un peu d'information. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis, je ne sais pas, un certain temps, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, il y avait un moteur de cloche qui était en panne. Donc, ce moteur a été réparé. D'ailleurs, M. Labbé l'a découvert l'autre jour. Et maintenant, on a effectivement deux moteurs de cloche qui fonctionnent, avec donc des sonneries tout à fait normales.
Moi, je dirais... c'est la messe. C'est
si ça pouvait être vrai.
Un peu de silence, s'il vous plaît. La sonnerie, elle est surtout plus agréable qu'elle ne l'était, parce qu'elle était un peu triste. Donc maintenant, on était toujours avec finalement des enterrements. Maintenant, je pense qu'on voit la différence entre les mariages et les enterrements. Bon. Très bien. Allez, dossier suivant. Tarif de restauration communale. Alors, nous avons mené avec la société API, qui a donc le marché de la restauration pour les enfants, une étude de faisabilité sur la possibilité d'ouvrir la cantine scolaire pendant l'heure du déjeuner, à certaines catégories d'adultes. Un sondage a été réalisé notamment auprès des personnels communaux qui sont concernés. En fait, les catégories d'adultes concernées, ce seraient les personnels communaux, les enseignants, les gendarmes de service et les pompiers de service. Oui.
Le personnel intercommunal, il n'y en aura qu'une ou deux au niveau de là.
Ah oui.
Ah bah oui. Bon, enfin moi, du point de vue juridique, est-ce que ça pose un problème, madame Madame Javelot?
Est-ce que les
faut qu'on justifie pour chaque catégorie de personnel. Mais si on justifie pour nos personnels communaux, on peut peut-être justifier pour les personnels intercommunaux.
Bah oui, de toute façon, ça va être jusqu'au. Hein?
Non, parce qu'il y en a quand même deux qui vont rester.
Oui, voilà. Il y aura une agence de là. Enfin, pardon, pas une agence.
Une antenne.
Une antenne, voilà.
Il y aura une antenne de là. Et ce sera le personnel le même qui a Raphaël, comme Catherine et John qui seront là.
Moi, on est là pour en débattre, hein, donc.
Parce qu'il ne faut pas se offrir à tout l'art.
Non.
Au personnel.
Qui, de l'antenne.
De l'antenne. Enfin, hein? Moi, je propose ça.
Qui est. Pardon, c'est une discussion un peu libre, hein, mais qui voit un inconvénient? Bon, ok, on va l'ajouter. Hein. Donc, je reprécise, parce que ce n'était pas précisé dans la note que vous avez obtenue, qui vous a été diffusée. J'ai du mal à m'exprimer ce soir. Donc, les personnels communaux, il y aurait donc les personnels de l'antenne intercommunale qui sera en place. Ensuite, les enseignants, les gendarmes de service, les pompiers de service. Qu'ils désirent, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour eux. Qu'ils désirent. Sachant que quand même, on aura des contraintes en termes d'espace et qu'en gros, ce sera un volume maximum de 20 personnes au déjeuner. C'est ça, à peu près. Quinzaine assurée. Et voilà. Donc, il y a une limitation d'effectifs. Il y a eu un sondage qui a été d'ailleurs réalisé auprès des personnels communaux et auprès des enseignants aujourd'hui. Donc les personnels communaux, ça donnait à peu près. Voilà, une douzaine de personnes se déclaraient intéressées, pas tous les jours, hein, mais voilà, de temps en temps. Voilà où on en était.
Les enseignants.
Comment ?
Les enseignants.
Les enseignants devaient répondre. Voilà. Principalement la maternelle, oui, se déclarait intéressée. Ensuite, comme vous l'avez marqué dans la note qui vous a été distribuée, la société API propose donc un repas adulte, 5 éléments en grammage adapté adulte, hors d'œuvre, plats et légumes, fromage et dessert, pain et serviettes de table, basé sur le menu du jour servi aux enfants, c'est-à-dire il n'est pas question de faire un autre menu, hein, qu'on soit très clair, avec possibilité de remplacer le dessert à la réservation par pâtisserie ou fruits de saison. Voilà. Sur la base, on a une offre donc de Happy de 2,32€ hors taxe, soit 2,55€ toutes taxes comprises. Donc c'est notre prix de revient en fait. Hein. Enfin, notre prix de revient pour Happy, parce qu'il y a un petit complément, forcément, on consomme du gaz, il y aura du nettoyage à faire, voilà. Alors, justement, faire cette opération, ça participe aussi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Pour les personnels communaux, moi je pense que c'est intéressant, de plusieurs points de vue. Déjà pour eux, d'avoir un repas complet et agréable, parce qu'on mange bien au centre de restauration scolaire. Ensuite, ils auront l'occasion de manger ensemble à différents services. Et on sait bien que dans ce moment-là, c'est un moment qui favorisera les échanges. Donc là, je dirais que c'est gagnant globalement pour tout le monde. Et puis nous, on accélérera un peu les retours pour amortir notre cantine. Voilà. Donc reste à fixer à la fois la date, donc à compter du. On n'est pas obligé de se mettre la pression. C'est plutôt très facile parce qu'il y a toute la manip administrative à faire autour.
Il faut acheter un peu de matériel, il faut acheter les tables, il faut acheter des vaisselles peut-être. Alors, donc, il manque des tables, des chaises, de la vaisselle.
Bon, je vous propose de prendre le 1er novembre. À partir du 1er novembre.
Oui, rentre le 3. Prévoir le nettoyage supplémentaire. Enfin, il y a un peu de temps.
Comment ?
Les vacances scolaires.
Oui, d'accord. Le 3 novembre, donc. Et quant au tarif du repas, je propose 2 tarifs. Un tarif pour les agents communaux à 5,50€ et un tarif pour les autres à 6,50€. Pas énorme, hein, pour un repas complet.
Vous aviez marqué 5,20€.
Alors, non, alors, non, 2 minutes.
Sur la base d'un prix de repas estimé à environ
5€. Bien, estimé à environ 5,20€. Donc, on est dans les environs. Et puis ça, c'est le document qui a été utilisé pour faire le sondage. Et à ce moment-là, on a fait un sondage. On n'avait pas encore vraiment discuté des prix. Mais bon, 5,50€, on est quand même aux environs de 5,20€.
Et 6,50€, ce serait pour les pompiers, les gendarmes et...
Oui, ceux qui ne sont pas agents communaux.
Et les conseillers municipaux, si vous y allez.
Alors, comme l'a dit Madame Jablot tout à l'heure, il faut justifier pour chaque catégorie de personnel. Pour les élus, c'est très compliqué de justifier ou de pouvoir justifier cette affaire-là.
Est-ce qu'il y a des élus qui déjeunent parfois ?
Alors, il y a des élus qui... Ça peut arriver ponctuellement, et d'ailleurs, j'allais y venir, parce que les élus peuvent aussi avoir le besoin de voir comment ça se passe à la cantine. Donc, mais ça doit être de toute façon ponctuel. Et dans ce cas-là... c'est plus une invitation de la société API. Mais c'est ponctuel. C'est très compliqué pour des élus de mettre effectivement, de les faire rentrer dans cette catégorie-là.
permet effectivement exceptionnellement d'accueillir les membres du conseil municipal, les parents élus, le comité de parents d'élèves du conseil primaire de la ville.
Oui, s'il vous plaît, on n'entend pas.
La qualité de cette délibération.
Alors, il faut faire attention, il n'y aura que 20 places aussi.
Oui, c'est ça. Enfin,
donc, on ne peut pas non plus, déjà ici, il y a 27 personnes. Non, si en plus, il y a les parents d'élèves élus, il n'y a pas la place.
Non, mais
alors, physiquement, ce n'est pas possible.
Du point de vue juridique, de toute façon, enfin, je vais laisser la parole à Mme Javelot, mais il est absolument impossible de dire, ben voilà, les personnels du conseil municipal vont pouvoir aller manger quand ils le désirent. À la cantine.
C'est exceptionnel.
Maintenant, ce qui a
c'est
été
pas,
marqué.
C'est pas les personnels, c'est les élus.
Les élus. Pardon, les élus, parce que j'ai dit une bêtise.
Les personnels.
J'ai dit, bon, les élus. Maintenant, ce qui a été voté, a priori, là, à ce conseil municipal-là, c'est un peu ce que j'ai dit, quoi. C'est exceptionnel, ça peut concerner des élus, ça peut concerner effectivement les représentants des parents d'élèves. Mais c'est, voilà, c'est comme ils le disent, c'est exceptionnel.
Vraiment, c'est vraiment très exceptionnel.
C'est pour constater la qualité des repas, enfin voilà, c'est cet objectif-là. Moi, je vous propose de laisser l'affaire des élus pour l'instant à part, parce que visiblement, juridiquement, c'est particulier. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne peut pas être intégré comme un service régulier pour des élus, ça peut être uniquement exceptionnel. Les parents d'élèves rentrent aussi dans cette. Parents d'élèves, représentants, pardon, des parents d'élèves, rentreraient pareillement dans cette catégorie, mais pas plus. Maintenant, je ne sais pas si Mme Javelot, vous avez un complément à donner sur cette affaire-là.
Oui, on a posé la question à l'une des intervenants de savoir est-ce qu'on pouvait mettre des tarifs différents selon les catégories. Donc, j'avais donné trois catégories, personnel, communal. Donc là, on peut comprendre qu'il y a un avantage parce que ce sont les employés de la commune dans le cadre de la politique sociale et de l'universitaire. Les enseignants, on peut encore justifier ça parce qu'ils travaillent auprès des enfants, ils sont en proximité de l'école. Par contre, un tarif pour les élus, devant un tribunal, ça peut être présenté comme un avantage en nature qui serait de la fonctionnement.
Oui, on ne rencontre pas de problème à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je propose justement de laisser ça. Est-ce qu'il fallait voter, comme ils l'ont fait dans cette commune, une délibération? Peut-être. Dans ce cas-là, on y reviendra et on votera une délibération. Comme quoi, à peu près dans les mêmes termes, parce que c'est l'esprit de ce qu'on veut faire.
Je n'ai rien trouvé d'autre. Ce que j'ai cherché, c'était la seule commune qui prévoyait ça, sinon il n'y avait pas cette délibération à d'autres personnels.
Voilà, donc on a ciblé les catégories de personnel, je rappelle, on y a donc ajouté les personnels intercommunaux qui appartiendront quasiment, parce qu'on sera le 1er novembre, hein, qui appartiendront à la nouvelle entité intercommunale. Sur les tarifs, donc effectivement un tarif préférentiel pour nos agents communaux à 5,50 € et un tarif à 6,50 € pour les autres. Question.
Mais les personnes qui vont manger, ils ont plutôt intérêt à prévenir le cuisinier le lundi.
Ah oui, il faut ça. C'est sûr.
Attends, Michel, on vote une délibération là, qui consiste à autoriser les choses et à fixer des tarifs.
Oui, mais bon,
derrière, effectivement, tu as raison. Il y aura, et d'ailleurs c'est déjà prévu, il faut que les gens préviennent, je ne sais plus si c'est 24 heures avant ou 48 heures, mais il y a effectivement toute une mécanique qui est en place derrière. Il y a d'ailleurs une mécanique aussi financière à mettre en place, évidemment, pour récupérer l'argent. Voilà, donc, mais tout ça, c'est d'ordre administratif. Ça, il n'y a pas de délibération pour ça.
Non,
on vote et c'est technique.
Ce sera dans l'organisation.
Ce sera dans l'organisation. Mais c'est déjà réfléchi, ces affaires-là. Tant qu'à faire, Enfin, c'est pas la peine de voter quelque chose si on se retrouve devant une impossibilité technique de le faire. C'est que, on y a un peu réfléchi quand même. Bon. Qui est... On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc approuvé à l'unanimité. Moi, je pense que c'est bien pour nos agents communaux. Et puis, ça peut créer aussi une ambiance. Enfin, je ne dis pas qu'elle n'existe pas déjà. Hein. Il y a déjà une excellente ambiance, mais ça peut voilà, renforcer les échanges transversaux entre les différentes personnes. Ah ouais, mairie, service technique. Et ATSEM, peut-être. Hein? On passe au sujet suivant. Sujet suivant, donc convention ligne 225 kV, Moimont-Mauru. Bon, on a déjà voté cette convention pour un certain nombre de terrains. Ça consiste, moyennant une petite somme que nous verse ERDF, ou RTE, pardon, RTE, là, parce qu'il s'agit de voltage important. Ça consiste effectivement. Pardon. Ça consiste à permettre à RTE de d'élaguer les arbres quand ils sont trop proches des lignes haute tension. Bon, on fait ça par une convention, ils nous donnent un peu d'argent. Dans le cadre de la parcelle qu'on va évoquer là, ils nous donnent 300 et quelques euros. Voilà.
Par jour?
Non, non, une fois pour toutes. Mais bon, enfin, voilà, c'est la sécurité des, c'est la sécurité électrique de tout cet ensemble. Hein. Donc on peut être que pour. Voilà. Alors, et on n'a pas à le faire, c'est RTE qui le fait. Le terrain en question, on a déjà voté pour des terrains sur le plateau, si vous vous souvenez bien. Il nous reste le Clos Saint-Corneille à voter, mais on doit encore avancer sur le plan administratif. Et là, on vote en fait sur une parcelle qui est la AB04. Et en fait, la AB04, c'est la parcelle du château d'Aramont. Et il se trouve qu'à l'extrémité de cette parcelle, mais vraiment à l'extrémité, juste sur le petit passage qui permet de passer de l'allée des Soupirs au chemin Saint-Corneille, comme vous le voyez là, sur ce qui est projeté, pour ceux qui veulent regarder, il se trouve que la ligne de 225 kV passe juste à cet endroit-là. Voilà. Donc je vous demande de m'autoriser à signer cette convention avec RTE. Question sur cette affaire-là?
C'est pas un renouvellement, c'est vraiment quelque
chose. Non, ils se mettent un peu, voilà, ils formalisent un peu les choses. Et non, à ma connaissance, c'est pas un renouvellement. Il n'y avait pas de convention avant. Mais maintenant, ils veulent formaliser les choses. Aussi pour ne pas avoir d'ennuis, j'imagine, sur le plan juridique. Et donc,
voilà. Il y a des indications du clou qui sont touchées par...
Oui, alors il y a tous les terrains, toutes les parcelles qui sont au voisinage immédiat de la ligne sont concernées. Et pour les parcelles qui sont privées, ERDF a signé avec chaque propriétaire une convention. Voilà. Et bien sûr, nous, ils signent parce que ça nous appartient. Voilà, on est propriétaire de cet endroit-là. Oui, monsieur Fleury.
Est-ce que... Le tracé a été changé par rapport à la ligne. Parce que la ligne passait au-dessus de la parcelle 335, hein, au-dessus du bois pratiquement extérieur, mais quand même sur le toit. Et il y avait eu problème donc, avec l'ERDF.
Oui.
Mais ils avaient, parce qu'il y a une distance entre le toit et la ligne. Et cette distance avait été respectée. Cependant, les propriétaires du terrain qui avaient construire s'étaient désistés en disant « Nous, on ne veut pas être sous la ligne, parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé, etc. Ouais. Et là, je vois que le trait rouge n'est plus sur le toit de la maison 335.
Alors, je suis dans l'incapacité de répondre à la question. Là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que dans le déroulement de cette opération, ERDF n'a pas rencontré de problème. Il a signé des conventions avec tout le monde.
Ils ont peut-être écarté un petit peu.
C'est là, vous parlez d'une époque où la ligne a été installée, où non. La ligne était déjà là.
La ligne était déjà là.
Oh, ben, elle n'a pas été bougée.
Non, mais là, est-ce que... elle n'a pas été bougée.
Ah, non.
C'est juste qu'il a changé, c'est les limitations de taille. Maintenant, c'est passé à 25 mètres. On doit tout abattre à blanc ou élaguer sur 25 mètres maintenant, par rapport aux lignes de 125 kW. C'est juste certaines normes qu'on a changé par rapport à ça, en fait. Donc, c'est pour ça que même monsieur Dufay doit abattre sa petite remise de pain.
Oui.
Parce qu'il est à moins de 10 mètres de la machine, il doit tout foutre en l'air. Et même si au château, ça n'a pas été vu, ça.
Bah, là, on va signer la convention, mais de toute façon, pour le château, c'est quand un lieu quand même où on regarde de près. Mais sur cet espace-là, à proximité de, sur l'endroit où c'est pas gênant, quoi.
Non, ils peuvent aller ETT par contre.
Ah, mais c'est eux qui vont le faire. Hein.
C'est juste la convention par rapport à ce qui existe.
Oui, c'est la convention par rapport à ce qui existe. Ils se mettent en règlement.
C'est bien élagué sur les...
Ils se mettent en conformité.
C'est comme ça qu'on a eu des arbres qui ont été coupés devant le collage. Et le devant le collage, ça appartient à la CCD.
Pardon, vous disiez.
C'est pour ça que tous les ans, on a 6 platanes qui sont reliées à blanc. Toujours à la même époque, c'est à cause de ça.
Mais devant, monsieur Floury, devant le collège, il y a des arbres qui ont été élagués. Ça appartient à la CCBA.
Tout à fait.
Voilà, c'est la même chose. C'est la
même vous avez dû avoir une convention aussi.
Vous avez dû avoir la même information.
Moi, je pense
si vous êtes propriétaire du terrain, justement.
C'est exactement le même tracé.
Alors ils vont peut-être venir nous voir.
C'est ça. Les platanes et qui ont coupé les sapins.
Non, mais ça passe ici, là. Et typiquement, c'est ces arbres-là qui étaient là. Voilà, je vous propose de passer au vote sur cette affaire-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous propose maintenant le point sur la modification des statuts du SE 60. Alors, le SE 60 a pris une délibération le 27 juin 2016 relative à une modification statutaire lui permettant d'accompagner et de soutenir les collectivités locales dans les démarches énergétiques et environnementales. Grâce à cette modification statutaire, les communes membres du SE 60 pourraient, si elles le souhaitent, profiter de l'expertise du syndicat en matière énergétique suivant deux modalités distinctes, soit dans le cadre d'une compétence optionnelle à laquelle elles adhéreraient, soit dans le cadre de conventions spécifiques mises à disposition de services auxquels elles pourraient souscrire. Cette deuxième possibilité serait également ouverte à des collectivités non adhérentes, communautés de communes par exemple. Le projet de modification statutaire porte aussi sur la composition des secteurs locaux d'énergie suite à la création de deux communes nouvelles sur le territoire du syndicat. Bon, là, c'est une modification très technique. C'est simplement la représentativité au niveau du syndicat, puisque ces communes-là, aujourd'hui, ne forment deux et trois communes, ne forment plus qu'une commune nouvelle. Donc, ils ont un nombre de représentants qui sont restreints. c'est la modification de l'annexe, mais là on est sur des choses techniques qui ne posent pas de questions. Et puis la mise à jour de l'annexe relative aux compétences transférées par les communes, ils en profitent, comme il y a des communes qui transfèrent des compétences sur l'éclairage électrique, etc. Eh bien, ils mettent à jour leur annexe à cette occasion-là. Mais la principale modification, elle porte effectivement sur les aspects énergétiques. Et pour être très clair, elle fait suite au vote de la loi sur la transition énergétique. Donc le SE 60 se place dans une situation, ou se place en situation d'apporter une aide à ses membres pour effectivement, du côté énergétique, apporter son expertise, voire participer à des appels d'offres pour essayer de réduire les coûts de tout ça. Voilà. Derrière ça, on peut effectivement, je peux vous lire ce qui a été ajouté, parce qu'en fait ce sont des ajouts hein, le statut. Donc il y a effectivement l'article 3 qui a été modifié, où on a ajouté quelques points. Dans les points qui ont été ajoutés, participation à l'élaboration ou à la révision et à l'évaluation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des plans climat, air, énergie territoriaux dans les conditions prévues aux articles L222-1 et L229-26 du Code de l'environnement. Participation à l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l'article L321-7 du Code de l'énergie. Mise en œuvre d'un service de flexibilité locale sur des portions du réseau de distribution d'électricité en vue d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité dans les conditions fixées par la loi et les règlements. Déploiement ou contribution à des projets de déploiement de réseaux électriques intelligents, dits smart grid, ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies dans les conditions fixées par la loi et les règlements. Ça, c'était les modifications de l'article 3. Modification de l'article 4, maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable. Le syndicat exerce, à la demande de ses collectivités membres, la compétence optimisation énergétique. Il assure les études et actions visant à atteindre les objectifs fixés par la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, que sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diversification du modèle énergétique et la montée en puissance des énergies renouvelables. Dans la poursuite de ces objectifs, le syndicat peut assurer les services d'efficacité énergétique suivants et le développement des énergies renouvelables, comprenant notamment la conduite de toute étude et l'apport de conseils en vue d'une gestion optimisée et d'une utilisation rationnelle des énergies, la conduite de bilan, diagnostic, la mise en place d'outils d'efficacité énergétique et l'aide à l'élaboration et au suivi de programmes de travaux ou d'informations sensibilisation, la recherche de financement et le portage de projets liés, la gestion et la valorisation des certificats d'économie d'énergie, la conduite d'études et l'apport de conseils en matière de développement des énergies renouvelables. Ils ont aussi ajouté le paragraphe 4.10, production d'énergie et de chaleur à partir d'installations utilisant des énergies renouvelables. Le syndicat exerce, au lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence en matière d'énergie renouvelable, aménager, faire exploiter, dans les conditions visées à l'article L22-24-22 du Code général des collectivités territoriales, toute installation de nature à permettre la production d'électricité, de biogaz et de chaleur, en particulier en recourant aux énergies suivantes, force hydraulique, géothermique, éolienne, biomasse, solaire. Cette compétence inclut la possibilité pour le syndicat de vendre de l'électricité ou du biogaz ainsi produit à des fournisseurs d'électricité ou de gaz. Ça, c'était les modifications de l'article 4 et celle de l'article 5. Donc, il y avait, dans le cadre de la commission consultative paritaire créée par l'article 198 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposée à l'article L2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales, Le syndicat peut assurer à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, membre de la commission, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L229-26 du Code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. Dans la poursuite des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte visée ci-dessus, le syndicat peut intervenir pour aider à améliorer la maîtrise de la demande en énergie et le développement des énergies renouvelables, comprenant notamment la conduite de toute étude et l'apport de conseils en vue d'une gestion optimisée et d'une utilisation rationnelle des énergies dans les bâtiments, pour les équipements techniques, pour l'éclairage public, etc. La conduite de bilan diagnostique, la mise en place d'outils d'efficacité énergétique et l'aide à l'élaboration et le suivi de programmes de travaux ou d'informations sensibilisation, la recherche de financement et le portage de projets liés, la gestion et la valorisation de certificats d'économie d'énergie, la conduite d'études et l'apport de conseils en matière de développement des énergies renouvelables, le soutien aux actions ou initiatives favorisant les bonnes pratiques et une utilisation plus rationnelle de l'énergie auprès des collectivités ou des usagers. Le syndicat peut assurer la promotion et le développement des usages numériques pour une gestion intelligente de l'énergie, notamment l'assistance et l'accompagnement de projets de toute nature, voire expérimentaux au titre de l'innovation, par exemple, smart grid, mobilité intelligente, en cohérence avec des infrastructures de réseau d'énergie au titre de la mutualisation, par exemple. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L222-24-32 du CGCT, le syndicat, en sa qualité de groupement de collectivités, intervient ou peut intervenir pour les actions suivantes. Production d'énergie et de chaleur à partir d'installations utilisant des énergies renouvelables. Le syndicat peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute l'installation de nature à permettre la production d'électricité, de biogaz et de chaleur, en particulier ou en gros courant, aux énergies suivantes, force hydraulique, géothermique, éolienne, biomasse, solaire. Cette compétence inclut la possibilité pour le syndicat de vendre de l'électricité et du biogaz ainsi produit à des fournisseurs d'électricité ou de gaz. Le syndicat peut prendre des participations dans toute société commerciale dont l'objet intéresse le champ de son objet statutaire. Voilà ce qui a été ajouté dans les statuts de l'ESE 60 qui consiste, comme je vous l'ai dit, vous l'avez remarqué, s'inscrire dans le cadre de la loi pour la transition énergétique et d'apporter donc un soutien en termes d'expertise, en termes de marché auprès des collectivités qui le souhaiteront, hein, qui feront les transferts de compétences qui vont venir. Question. Alors, moi, j'ai appelé le syndicat, j'ai quand même posé une ou deux questions. Parce qu'on voit que, quelque part, au départ, le SE 60 était concentré sur l'énergie, il avait donc concentré sur l'électricité, pardon, il avait donc des experts dans ce domaine-là. Là, on voit un élargissement de l'éventail, avec des domaines d'expertise qui sont quand même très différents, le biogaz, etc. Et donc, la question qui me venait à l'esprit, c'était... à quoi ça va convenir en termes, à conduire en termes d'augmentation de la structure et donc de lourdeur de la structure à financer par les collectivités. Là, il m'a été répondu que pour l'instant, ils avaient un recrutement en cours et qui, dans les faits, travaillait déjà pour eux. Bon. Et qu'ensuite, pour le reste, ils veilleraient à ce que le coût du service soit financé par les participations des communes qui bénéficieront du service. Voilà ce qui m'a été dit. Néanmoins, je pense qu'il faut rester vigilant sur l'augmentation des coûts de structure supportés par l'ensemble des communes et pas uniquement par celles qui bénéficient du service. Moi, c'est ce que j'y vois comme risque. Il ne faudrait pas que ça devienne une... Déjà que c'est une grosse structure, devienne pléthorique et qu'on ait, maintenant la volonté elle est louable, hein, puisqu'on veut qu'on fasse travail mieux, qu'on économise de l'énergie, mais il faut qu'il soit prudent du côté de l'alourdissement de la structure. C'était les seuls commentaires que j'avais à faire. Est-ce que ça déclenche d'autres questions ou pas?
Un établissement public, apparemment,
participation dans une entreprise privée, ça change pas un peu la donne en termes de vérification juridique?
Alors,
supposons que l'entreprise qui fait des hauts de une entreprise qui est solaire. Bah oui, c'est ça. Donc, prendre.
Bah, ça a attiré effectivement mon attention, cet article aussi. Maintenant, ce que je me dis, c'est que, alors juridiquement, je ne suis pas un expert juridique sur ces plans-là. Ce que je me dis quand même, c'est que là, les statuts ouvrent cette possibilité, mais qu'après, de toute façon, il faudra le voter au cas par cas. Ils ne pourront pas prendre d'eux-mêmes, comme ça, des participations dans une société.
Ben oui, parce qu'après, les sociétés deviennent des sociétés d'économie mixte. Ben oui. Les sociétés changent de statut, parce que quand on prend des parts publiques dans une société privée, ça forme des sociétés. Ou alors tu... Oui. Juridiquement... Ils ont dû quand même faire travailler des cabinets juridiques, je suppose.
Voilà. Ou là, ils ont peut-être ouvert la porte, comme j'ai dit, en disant de toute façon, ce sera du cas par cas. Et ce ne sera peut-être pas d'ailleurs dans une société privée. C'est peut-être pas là qu'ils envisagent. C'est peut-être dans une, je sais pas quoi, une, un centre d'expertise. Voilà, ils prennent une participation.
Mais ils peuvent aller jusqu'à la production d'électricité.
Oui, ils peuvent aller jusqu'à la gestion et la production d'électricité.
La gestion et la production et la prise de part dans les sociétés.
Parce qu'ils peuvent installer des éoliennes, si je comprends bien,
pour,
sur un territoire.
Ils peuvent
installer. Voilà. Attends, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes.
Non,
hein,
non,
c'est
des conseils.
Comment? Ils donnent des conseils, mais tout à l'heure, dans ce que j'ai vu, c'est bien dit, effectivement, qu'ils peuvent aussi... C'est-à-dire qu'après, en gros, l'esprit, on prend par exemple, je ne sais pas, un centre de biogaz, c'est, ils participent clairement au montage du dossier, etc., qui, je suppose, servira à plusieurs communes, et après, ils en assureront la gestion. C'est un peu ça, l'esprit.
C'est un peu la même politique qu'avec l'histoire pour les voitures. Je ne sais pas ce qui les pousse à. Il essaie de brûler des étapes de façon.
Moi j'écoute. Hein, moi je ce que je vous proposerais bien, c'est d'approuver. De, peut-être de mettre un ou deux bémols en disant premièrement qu'il faut rester extrêmement vigilant sur l'augmentation, enfin l'inflation de la structure parce que, et les coûts qui sont liés à tout ça. Et ensuite, j'avoue que j'avais pas pensé mettre quelque chose sur la participation. Je me disais que bon, juridiquement, ça a été forcément vu. Quoi.
Parce que le syndicat peut aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter. Ils peuvent aménager, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire bon, on lance une opération de 10 éoliennes. Mmh. Bon, mais à ce moment-là, c'est le syndicat qui va financer.
Oui, en partie, oui. Donc, enfin, il va financer au travers de participation des communes. Hein.
Bah oui, c'est bien pour ça. Ou à travers des financements banques. Bon, maintenant, c'est pour faire. Hein.
Non, c'est... Là, ils ouvrent des possibilités.
Ouais.
Bah, ils essaient de s'inscrire dans ce qui a été voté au niveau national en disant... En gros, aujourd'hui, ils se positionnent un peu différemment. Au départ, on avait affaire à un syndicat d'électricité. Et aujourd'hui, ils disent, en gros, tout ce qui est énergie, c'est notre domaine de spécialité. Donc, ils élargissent leur champ d'intervention. Et on en a bénéficié au passage, hein, parce qu'on a pris le groupement de commandes pour le gaz, par exemple, qui quand même a été une bonne affaire pour tout le monde. Hein. Bon. Je crois que bon, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller dans ce sens-là. Ceci dit, il faut rester vigilant après sur les décisions qu'on prend. Concrètes. Parce que là, on ouvre des portes, on ne fait rien de plus. Hein. Dans le...
Jusqu'ici, ils ne pouvaient pas exploiter et l'électricité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent au même titre que les airs, quoi. Ils peuvent rien.
Alors, tout ce qui est ajouté, c'est sur les énergies renouvelables. Hein. Donc, c'est le paragraphe qui leur manquait. Hein. Y a-t-il d'autres avis, d'autres... Bon, on se résume. Moi, je vous propose. Après, on voit ce qu'on fait.
Michel, excuse-moi, donc dans la réserve, sous réserve que de la maîtrise des coûts, hein,
oui.
De la maîtrise des coûts pour les collectivités membres,
oui.
À l'occasion de la mise en œuvre des nouvelles compétences envisagées.
Des coûts et en particulier des coûts de structure.
Des coûts de structure, voilà.
Non, enfin, leur but c'est un syndicat. De toute façon, ils gagneront pas d'argent au final. Hein.
Mais quand ils revendent de l'énergie.
Ah bah et ça, s'ils revendent et s'ils font entre guillemets, enfin normalement, ils vont adapter les tarifs aux usagers pour rester à l'équilibre. Le but c'est que les gens paient moins cher. C'est ce qui a été fait dans le groupement de commandes. Dans le groupement de commandes, ils ne gagnent pas d'argent. Ils nous ont fait au contraire bénéficier d'une action d'ensemble. C'est ça le but du syndicat. Hein. Maintenant, des bonnes intentions aux réalités, il faut quand même se méfier.
Mais enfin, ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on approuve la modification des statuts, ils ne nous demandent pas autre chose.
Oui, c'est-à-dire que même si on ajoute un petit quelque chose...
Est-ce que c'est entièrement sûr que c'est pas en
compte? Oui, mais non, on
le redit, en tout cas.
Oui, on peut le mettre, on peut le
déléguer.
Après, il y a les grands millions, c'est quoi, comment...
Le syndicat et tout ça, après, il y a des votes dans les communes.
On a le droit de se poser des questions.
Alors, c'est géré par des assemblées générales, avec, comme c'est très lourd, il y a des syndicats, des secteurs locaux d'énergie. Nous, on appartient au secteur local d'énergie de Pont-Sainte-Maxence. On est donc présent avec René, puisque c'est nous deux qui y sommes. Et je vous prie de croire qu'on ne s'est pas privé de poser des questions, en particulier, on ne va pas y revenir, mais sur l'affaire des bornes à recharge électrique. Et d'ailleurs, dans les propositions maintenant qui reviennent, puisqu'on avait posé clairement les problèmes de dégradation, etc., qui paierait dans ce cas-là, au final, dans les propositions qu'ils font maintenant, ils prennent tout en charge.
Donc
on a été, pour le coup, percutant et entendu, parce que quand on a posé ces questions-là, immédiatement, les autres ont rejoint. Hein. Donc ils ont bien pris en compte, hein, cette affaire-là. Voilà, là, c'est des statuts, on ouvre des possibilités. Maintenant, on n'a pas encore fait, hein, concrètement.
Là, ils prévoient aussi quand même des recharges en place pour les véhicules automobiles. Hein.
Ah mais ça c'était déjà dans les statuts. Voilà, c'était l'affaire des bornes électriques était déjà dans les statuts. Hein. Je vous ai vu que ce qui avait été ajouté.
Là c'est des recharges base pour les voitures.
Bon donc moi je vous propose d'approuver les statuts, de mettre quand même qu'il faut rester particulièrement attentif effectivement à la maîtrise des coûts et en particulier des coûts de structure puisque le syndicat s'ouvre sur d'autres compétences et aura donc besoin d'expertise supplémentaire.
On peut s'y mettre tout sur des domaines qui sont quand même assez complexes.
Qui devront, coûts supplémentaires, qui devront être financés par les communes qui bénéficieront de ces services. Puisqu'après, on va demander aux communes de transférer des compétences. Alors c'est celles qu'ils feront qui... Alors je pense que ce sera d'ailleurs plus des intercommunalités qu'ils feront que des communes. Telles que ces parties-là, vous avez vu les plans climat, air, énergie, tout ça, ça ne se passe pas au niveau des communes. Ça se passe au niveau des intercommunalités. Bien, tel que je l'ai formulé, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, proposition approuvée à l'unanimité. Sujet suivant, dénomination d'une voie. Donc, je vais peut-être laisser la parole à l'adjoint à la voirie. Il y a la carte qui est affichée pour ceux qui veulent regarder.
La dénomination d'une voie, ça concerne l'impasse dans la rue de la Pêcherie. Et il y a eu plusieurs constructions des années précédentes qui font que c'est un véritable problème pour les facteurs, pour les gens autour, parce qu'ils n'ont pas leur courrier ou ils ont le courrier des autres. Enfin, ça traîne depuis déjà pas mal de temps. Donc cette impasse, on l'a renommée impasse de la Pêcherie, c'est la rue de la Pêcherie, on fait l'impasse de la Pêcherie, de manière à pouvoir leur donner des numéros aux constructions qui sont là, et de façon à ce que ça simplifie le travail au niveau de la poste et du courrier.
Bon, il y a l'impasse de la rue Saint-Pierre qui existe déjà. C'est à peu près la même configuration d'ailleurs.
Non, donc, jamais été mal.
Là, pour l'instant, elle n'existe pas justement et ça pose des problèmes pour distribuer le courrier. C'est pas le seul endroit dans Verberie où on a ce genre de problème, hein, mais on les traite un par un. On a traité la rue de la Cendrière déjà. Là, on traite celle-là. Bon, il y a de l'ordre de 5 adresses à mettre.
4 à 5.
4 à 5 adresses. Bon, question sur le sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité.
Parce que là, en fait, je suis presque sur ce. Il y a madame. Madame Mère. Ouais, mais ils sont pas bons, c'est pas bon. Ça n'existe pas, c'est absolument pas avec un parent, on a des adresses. Et madame la dame qui a dit
on va aborder.
Des fois, la boîte courrier ou des fois, la courrier.
Quelques points d'information. Il y a un gros point à aborder, donc je l'aborderai en dernier. Premier point d'information. Donc, ça sera évidemment présenté en conseil municipal, mais je voulais déjà vous en parler. On envisage de vendre le local qui est 5 rue Juliette Adam et occupé aujourd'hui par le coiffeur. Nous avons donc fait faire une estimation coiffeur Jérém Coiffure. Nous avons donc fait faire une estimation aujourd'hui.
C'est Jérém.
Nous avons donc fait une. Bien, nous avons donc fait faire une estimation par France Domaine et France Domaine nous a répondu que ce local était estimé avec le tout petit bout de cour qui va avec à 60 000 euros. Le local fait 35 mètres carrés. Voilà. Bah, c'est bien, à mon avis, là, c'est bien évalué. Hein. Bon, on verra. Aujourd'hui, il est loué 339,59 €. Ce qui fait que si ça avait été vendu 60 000 euros, ça représente environ 14 ans de loyer. Voilà. Sachant que sur cette affaire-là, il y a évidemment des affaires de normes derrière et qu'il faut que ce soit accessible au PMR. Donc il y a des travaux, mais celui qui est dans ce local-là est parfaitement au courant. Il y a des travaux à réaliser de ce point de vue-là. Et quand je l'avais rencontré, il s'était déclaré intéressé par cette acquisition. Voilà, maintenant on a fait faire cette estimation. Je tenais à vous en informer et déjà savoir si, sur le plan du principe, on ne va pas voter ici, hein, mais sur le plan du principe, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que. Voilà. On reste dans la même logique qui consiste à dire, pour l'instant, enfin, on n'est pas des bailleurs, voilà, ce n'est pas notre métier. On en gardera un certain nombre de toute façon, puisqu'il y en a dont on ne peut pas se séparer, hein, par exemple au-dessus de l'école du centre, c'est clair. Mais là, c'est un local qui est totalement indépendant. Donc, voilà. Là, c'est juste un avis de principe. Et ce sera bien sûr représenté au conseil municipal pour une somme qui reste à déterminer. Là, je vous ai donné l'évaluation de France Domaine. Qu'est-ce que...
De changement d'orientation.
Alors, moi, j'ai pas l'historique, mais je crois qu'au départ, c'était la trésorerie ou quelque
perception,
chose.
Ouais.
La perception qui était là. Donc, ce local est venu un peu dans le giron de la mairie naturellement.
Non.
Ah bon.
Non, le bâtiment, tout bâtiment appartenait à la commune.
D'accord.
Tout bâtiment.
Tout le bâtiment appartenait à la commune, qui a été revendu en plusieurs lots à une époque, et la trésorerie était dans les locaux de la commune.
D'accord.
Ensuite, lorsque la trésorerie a disparu, donc ça a été loué à un antiquaire.
Oui.
Un tireur de planches,
tout à fait.
Oui.
Un géomètre.
Et puis après, une antiquaire. Une femme. Elle avait un autre magasin à Niri. Oui, tout à fait.
Et puis un coiffeur. Monsieur Tison, et puis Jérôme Coiffure.
Monsieur Tison, et puis.
Et une dame qui avait des fringales.
Donc le problème qui se pose, et là-dessus, c'est le problème de la légalité par rapport aux travaux qu'il y a à faire, de conformité du local qui appartient à la commune, et c'est au propriétaire de le mettre en conformité pour l'exploitation.
Sauf, tout dépend de ce qui, s'il y a des clauses particulières dans le bail, qui disent le contraire.
Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une clause particulière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce problème de conformité. Donc je suppose que dans le bail qui a été signé, je ne me souviens pas, mais comme on n'avait pas ce type de problème à l'époque, je ne crois pas qu'il y ait eu une clause particulière. Voilà. Sur... Mais je...
Non, mais je en fait, sûr. On a re-signé un bail, puisque M. Tison est parti, et on a re-signé un bail.
Ah, oui.
Et dans le bail, effectivement, il y a cette clause.
Ah, il y avait cette clause.
Oui, on a fait attention justement à ce qu'il y avait cette clause.
Parce que nous, il n'y avait pas de clause à l'époque. Il n'y avait pas ce problème de conformité.
Alors, attendez, je termine la réponse, puis vous posez une autre question, hein, je n'ai rien contre. Alors, il n'y a pas de changement d'orientation. Nous, ce qu'on a présenté lors du débat d'orientation budgétaire, c'est bien de dire, la mairie, c'est pas un bailleur. Donc, aujourd'hui, il y a des gens, ça devient de plus en plus compliqué juridiquement. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc, on gardera la partie qui est indissociable, par exemple, d'un bâtiment public, comme l'école du centre, mais on se place plutôt dans une perspective où on vend ce patrimoine. Voilà, maintenant je vous laisse poser les questions.
Quant à la conformité de ce local, je me dis que, puisqu'actuellement c'est bien un coiffeur,
oui.
On est bien d'accord. Donc je pense qu'il y a aussi, il doit être conforme puisqu'il reçoit du public. Et je n'imagine pas qu'on puisse recevoir du public dans cet établissement qui ne puisse pas être conforme.
Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une obligation par rapport au handicapé, avoir des portes, une porte de 90, une porte de marche, des différentes.
Néanmoins, du point de vue peut-être pas le bon terme, mais de l'honnêteté, justement, pour remettre son magasin complètement conforme, pardon, on dit pas magasin, mais pour mettre le salon de coiffure complètement conforme, il a fait de lui-même des travaux.
Oui, parce qu'il est obligé.
Donc il a financé déjà des travaux. Enfin voilà, je tiens à le dire quand même.
Oui, j'imagine.
Donc aujourd'hui, dans sa démarche, quand il m'en a parlé, parce que c'est lui qui m'a posé la question, et comme ça allait dans notre vision, j'ai dit pourquoi pas. J'ai fait des travaux, etc. Donc bah, finalement, il y a une certaine logique. Moi, je suis prêt à acquérir le bien.
Oui, il a fait des travaux de sécurité. Alors que là, se pose le problème
sur l'accessibilité.
Le problème de l'accessibilité. C'est deux choses.
C'est encore tous les commerces.
Oui, ce sont tous les commerces. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'années qui, pour lesquelles, là, il y a deux ans, trois ans, comme la commune d'ailleurs, on a fait un plan pour pouvoir faire les travaux. Et donc, il y a des dérogations, si bien qu'il y a certains. Certains qui vont trouver donc des cas de figure et là il y a un problème en matière de sécurité il est dans les normes, en matière d'accessibilité il n'y est pas.
D'accord, c'est comme le bilan,
c'est bien ça.
Bien. Alors je reviens à ma question. Sur le plan du principe, est-ce que ça heurte quelqu'un ? Non. De toute façon, on est clair, hein, ce sera représenté en conseil municipal de manière très, très carrée. Hein.
Donc là, on est bien d'accord que c'est une démarche commune entre et la commune et le salon.
Oui.
Donc ça ne conduise pas derrière à ce qu'ils ne puissent pas éventuellement l'acheter et qu'ils soient obligés de partir.
On n'est pas du tout dans cette philosophie. Hein.
Non, mais j'ai bien compris.
C'est lui qui a fait la proposition.
On fait bien attention à ce point-là.
Je vous l'ai dit, à un moment donné, c'est lui qui est venu vers moi.
Oui, c'est lui qui a fait la proposition.
Rassurez-vous, bien sûr.
Voilà. Donc, si on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un prix, on resterait plus ou moins dans de la location, mais je crois qu'il a vraiment envie de l'acquérir. Hein. Bon, voilà. Alors, les 60 000 euros, on verra un petit peu. On peut peut-être discuter un peu. Surtout qu'il a déjà fait des travaux à l'intérieur. Voilà. Mais nous, on a aussi des investissements à faire par ailleurs.
Le clocher.
Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Edwige Caron a posé une question qui concerne le parking de la mairie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est ouvert non seulement à tous ceux qui viennent à la mairie, mais il faut dire qu'il est de plus en plus exploité et utilisé par les parents de l'école du centre, puisque ça facilite bien les choses pour... aller chercher ou en tout cas accompagner les enfants. On est là à 30 mètres de l'école du centre. C'était une demande, on leur avait accordé. Pas de problème. En ce moment, en plus, il est très utilisé puisque vous avez vu qu'en plus, la place Charles de Gaulle est un peu occupée par les travaux de réhabilitation du Crédit Agricole. Donc, la question d'Edwige, c'était qu'il n'était pas toujours facile de sortir du parking. Alors, tu développais un peu les points, tu me dis si je me trompe. Je pense que quand on sort du parking et qu'on va vers la droite, typiquement vers le café du centre, c'est assez facile, ça se passe bien. Par contre, lorsqu'on tourne à gauche...
Le problème, c'est voilà.
Alors là, il ne peut pas y en avoir puisqu'il y a les barrières et les... Il y a les barrières. Hein.
Si, il y en a une ou deux avant.
Non. En tournant à droite, il n'y en a pas avant les barrières. Il n'y a pas de place. Hein. Après, il n'y a pas de place de parking.
En sortant à droite, non, mais sur la barrière.
Mais à gauche.
Et la vision à gauche, par contre, tu as raison, elle pose problème.
C'est ça. Il n'y a pas de voiture à droite, mais si c'est de gauche.
Vision à gauche.
Alors, c'est la vision à gauche. Alors, Edwige proposait dans une solution à base de miroirs. Ouais. Bon, les miroirs, c'est pas très efficace. On va donc réfléchir, mais c'est de réfléchir à autre chose. L'idée, c'est peut-être plutôt mais on va y réfléchir, hein, c'est de retirer peut-être une place de stationnement à proximité pour ouvrir l'angle de vue sur la gauche.
Et Michel, quand on arrive rue de Saint-Nicolas, qu'on prend à droite, au stop.
Attends,
stop. Tu vois la rue Saint-Nicolas ?
Place, oui, la rue Saint-Nicolas. Oui.
Bon, quand tu arrives tout au bout de la rue, tu as un stop.
Ah oui,
ah oui, pour aller voir Saint-Tine.
Quand tu tournes à droite, là, à gauche, il y a une ligne jaune, mais il y a quand même des voitures dessus, donc on voit rien.
On voit rien.
Et là, un jour, il y aura un accident parce que ça arrive fort.
Pour rien vous cacher, je suis déjà intervenu sur cette affaire-là auprès du propriétaire.
Moi, ça m'est déjà arrivé où il y a une voiture qui est arrivée, j'étais déjà engagé.
Et donc, il est de toute façon verbalisable, puisque là, il y a une bande jaune.
Ce que je veux dire, c'est que si tu fais la même chose là, et que de toute façon, c'est pas respecté de la même façon que là-bas,
on va peut-être mettre un peu de couleur, on va voir, et puis après, ben.
Barrière verte.
Non, mais c'est pas respecté.
Non, un pot de fleurs.
Bon, voilà, donc on s'orienterait peut-être plutôt sur l'idée de supprimer une place de parking. Mais il n'y a rien d'arrêté, il faut qu'on en discute. J'ai eu ta question tout à l'heure.
Même plus d'une place en plus.
Ah, puis en plus, ce serait.
Voilà.
Donc, ça peut. Vous voyez, ça améliorera la sécurité des lieux. Bah, après, il faudra se battre pour que ce soit respecté.
Ah non, mais il faut plus d'une place. Il faut 2-3 places pour avoir vraiment un nombre.
Ah, bon, au moins 2 places.
C'est là que tu te gardes.
Oui, ça suffira.
Bien. Point suivant. Je reviens dessus. On a parlé des travaux de la rue de la République, donc ça, c'est terminé. Vous avez vu également au niveau du port, on a donc clos la digue qui part de la rue René Firmin, l'avenue. Donc il y avait déjà un premier mur qui avait été construit le long du camp. Et là, on a construit un mur supplémentaire qui va jusqu'au pont de l'Oise. Alors aujourd'hui, il y a déjà un bâtard d'eau qui va être mis en place au niveau de l'entrée du camp. Donc on attend, si vous allez sur place, vous verrez que les parties qui coulissent, enfin toute l'infrastructure pour accueillir les bâtards d'eau est en place. Ensuite, des bâtards d'eau pour tout le monde ici, c'est des structures en aluminium que vous glissez. Au bout, il y a des boudins qui se gonflent pour que ça devienne hermétique. Dans justement ces fameuses glissières, voilà, glissières qui sont en place. D'accord ? Ce qu'on envisage, là, les travaux ne sont pas terminés, mais c'était la conclusion d'une des réunions sur l'aménagement de la rue du Port. Pour l'instant, on a construit tout le mur. Qui est pas, quand on le regarde l'extérieur, on peut penser aujourd'hui que c'est un mur de parpaing lambda. Ce n'est pas du tout ça. Ceux qui l'ont vu construire ont vu combien il avait été ferraillé, etc. Et c'est des parpaings particuliers. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est des parpaings particuliers. Parpaing à brancher. Voilà. Pour que ça tienne justement les 1m20 d'eau. Qu'on envisage, on verra en fonction de l'aménagement du port. Mais le mur a été conçu de toute façon pour qu'on puisse, à un moment donné, percer un bâtard d'eau également, deuxième bâtard d'eau, qui permettra donc à des véhicules d'accéder au port. Voilà, c'est ce qui avait été prévu à ce moment-là.
Donc là, le port, il est condamné.
Pour l'instant, oui, jusqu'à l'aménagement.
De toute façon, pour l'instant, on a fait sur le port des travaux de sécurité qui évitent qu'aujourd'hui ça coule au fond de l'Oise, mais tout le quai reste complètement interdit à, alors je vais dire accostage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, l'accostage des bateaux. Ils n'ont pas le droit de se mettre là, hein, parce que c'est fragilisé cette zone-là et on n'a absolument pas le droit de s'y mettre. Maintenant, sur l'opportunité de relancer ce port marchandises à côté de la plateforme de Longueuil. Et puis ensuite, il est dans un lieu, aujourd'hui, ça ne se prête plus à ça.
Il appartient à qui ? Il appartient à l'INF ou à Verderie ?
Alors, le port, nous avons une concession de...
Jusqu'en
2020 avec VNF, oui. Ceci dit, VNF, dans les discussions qu'on a vues et en fonction des travaux qu'on va faire, est prêt à rétrocéder, c'est le bon terme, cette concession à y mettre fin comme ça. Bon, voilà. Sans... Parce que la concession, normalement, disait qu'on devait rendre, alors elle avait été signée il y a 50 ans, en l'état, refait, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens économique. Enfin, donc, à un moment donné, il faut arrêter.
On avait sorti, d'ailleurs, on avait pris l'obligation de fermer le port de marchandises dès que le port de Longueuil serait ouvert.
Oui. En plus.
Donc, c'était un engagement par rapport à VNF aussi.
Bon.
Donc, la seule chose, c'est que VNF, à l'époque, disait bah oui, mais on souhaiterait qu'il continue à vivre avec un port de plaisance, une halle
oui.
De plaisance. Ça. Et bon, c'était dans ce sens que ça avait été négocié avec eux.
Donc voilà, je voulais quand même vous informer de ça. Donc normalement, on doit être capable aujourd'hui de faire face avec les digues à une crue, d'après les calculs, dite trentenale. Maintenant, si c'est une crue centenale, ça passe de toute façon au-dessus des digues.
Et là, bon, là on a monté une digue. Mais la société qui fait du hors-bord, qui fait des bateaux, ils ne se trompent pas.
Bien, c'est justement là qu'est le bâtard d'eau. Non, il est à l'extérieur de. D'abord, c'est pas chez eux, puisque c'est un territoire communal. On est d'ailleurs en train d'élaborer une convention qui est en échange entre les deux pour ce terrain-là.
Hein?
Voilà. Questions sur ce sujet-là?
Est-ce qu'on va le cacher un peu ce mur ou pas?
Non, alors, non. On va la battre. En face, c'est beau.
Non, parce qu'il est moche, on va le taguer.
Il est un peu moche.
On peut le peindre.
Alors, on va.
Par des enfants, je ne sais pas.
On a commencé, on a mis en place une commission qui, dont d'ailleurs la composition peut évoluer, hein, s'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre, qui regarde l'aménagement du port. On va donc rassembler à nouveau cette commission pour voir. Comment on a, enfin, ce qu'on fait autour de ces murs pour les rendre plus agréables, sachant que les travaux d'amélioration, d'embellissement, sont à faire depuis quasiment la station de captage, puisque le premier mur est toujours en parpaing brut. D'accord ?
Moi, je vois du lierre.
Bon. Alors, il peut y avoir aussi un enduit, voilà.
Ou
un plaquage de pierre, enfin voilà, faudra... Mais en tout cas, il ne faut pas que ça reste comme ça, je suis bien d'accord.
Avec les 60 000 euros de pierre, et puis c'est bon.